Aujourd'hui, on se rapproche de la fin, de notre série sur la fin des temps et moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Pasteur Stéphanie Reeder qui va apporter le dernier message de notre série. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est assez complexe, qui est assez grand et assez vague, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de nouvellevie.com. Vous savez, la force de l'église Nouvelle Vie, c'est qu'on est une église sur plusieurs sites, et c'est sûr qu'il y a au moins un prédicateur sur le site, que ce soit à Longueuil, à La Prairie, à Drummondville pardon, ou à Charlevoix, qui a fait un message qui pourra répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'église nouvellevie.com. Aujourd'hui, on va reprendre le texte qui a inspiré toute notre série et qui se trouve en 2 Timothée au chapitre 3. Et comme vous le savez ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit sa lettre à son fils spirituel, à son apprenti, à son disciple. Et il lui dit au chapitre 3, dès le début, « Écoute, Timothée, la fin des temps, ça va être des temps difficiles. » Et il explique pourquoi. Il donne plein de raisons, il donne plein de caractéristiques de voilà comment les gens seront. Ils vont être comme ça, ils vont être comme ça, ils vont être comme ça. Et au verset 10, il dit « Mais toi, Timothée, toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. » Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium et à Lystre, et quelle persécution j'ai subie. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. » Ce matin, Dieu m'a conduit sur un thème un peu particulier. Et on va faire un deal tous ensemble. Okay ? Je vais vous donner mon titre, je vais vous donner mon thème, et en retour, vous me promettez de ne pas quitter la salle. De toute façon, j'ai demandé à Jean-Sébastien de se tenir devant la porte et de plaquer au sol tous ceux qui veulent sortir. Mais bon, on fait un arrangement ensemble. Hein ? Le titre de mon message ce matin, « La souffrance et les persécutions des temps de la fin ». On est content d'être là hein, ce matin. On va parler des belles choses. Honnêtement, j'avais un autre message en tête, beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus énergisant. Mais Dieu m'a conduit sur ce thème-là au cours d'une conversation que j'ai eue cette semaine avec Pasteur Jérôme Cantelberg. Et puis, j'ai senti vraiment que Dieu me poussait à aller là-dedans. Et j'ai conscience que ça n'avait pas du tout vendeur sur le papier. On voit ça, on est comme... Nope. Mais dans sa lettre à Timothée, Paul cherche à l'avertir de ce à quoi la fin des temps va ressembler. Paul cherche à prévenir Timothée et lui dit « Si tu continues à suivre Jésus, tu vas faire face à tous les hommes qu'on a vus. Ils seront méchants, ils seront voleurs, menteurs, etc. Mais en plus de ça, tu vas être persécuté. Tu vas souffrir. » Cette lettre qu'on a lue, c'est la dernière parole que Paul a donnée à Timothée. Et j'aime bien parce qu'on voit l'opposition entre guillemets, mais on voit Jésus qui donne sa dernière parole à ses disciples avant de monter au Père et il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ah, Seigneur, c'est beau. Puis Paul dit à Timothée « Hey, tu vas souffrir, tu vas être persécuté. Il y a la souffrance qui tape à ta porte. » Mais Paul ici est intentionnel. Paul ici est intentionnel parce qu'il veut que Timothée se prépare. Et c'est avec cette même notion d'amour que je veux prêcher ce matin. Vous savez, lorsqu'on voit aux infos, tu peux mettre la diapo, lorsqu'on voit aux infos qu'un ouragan qui va frapper une ville, on voit toute la ville, tous les habitants se préparer. Ils renforcent leurs fondations. Ils renforcent leurs points faibles, les points faibles de leur maison. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont en subir les conséquences et même peut-être en perdre la vie. Et c'est la même chose pour nous ce matin. Si je prêche sur la persécution et sur la souffrance, c'est pour que nous puissions identifier les points faibles de nos cœurs afin de demander à Dieu qu'il vienne nous renforcer, nous rendre prêts quand l'ouragan va venir frapper à notre porte. Amen. Maintenant, quand je vous parle de persécution, peut-être qu'il y en a qui se disent « Hey, T'exagères pas un petit peu là? C'est un petit peu ancien ce mot-là, persécution, souffrance. On connaît pas ça nous aujourd'hui. C'est le 21e siècle. Si vous faites des recherches sur la persécution, vous allez vous rendre compte que la persécution a augmenté durant ces dernières années. Je lisais un article dans le Journal de Montréal qui nous disait en janvier 2021 que 340 millions de chrétiens ont subi des persécutions en 2020. C'est plus qu'en 2019. En 2019, ils étaient 260 millions. Cela représente, nous dit l'article, un chrétien sur six en Afrique. Un chrétien sur six en Afrique subit la persécution. Et deux chrétiens sur cinq en Asie. Le nombre de chrétiens tués pour leur foi, à cause de leur foi, a augmenté de 60%. Et on estime que par jour, 13 chrétiens perdent la vie pour leur confiance en Jésus. Puis là encore, vous allez me dire, ouais, mais c'est dans les pays qui ne sont pas très développés. C'est dans les pays un petit peu bizarres, là où il se passe tout ça. Non, non, ça ne se passe pas, nous, ici au Québec, en Occident, on est tranquille. Vraiment? Qui n'a jamais connu de moquerie, d'insultes, de rejet, de blasphème, après avoir proclamé sa foi en Jésus? Si on ne vit pas de persécution ici, alors pourquoi est-ce qu'on a honte de dire qu'on est chrétien à ceux que nous côtoyons? Si on ne vit pas de persécution ici, alors pourquoi on n'ose pas dire ce qu'on a fait le dimanche matin à nos collègues qui nous demandent « Hey, t'as fait quoi cette fin de semaine ?» Nous vivons des persécutions, ok, peut-être pas sanglantes, mais on vit du rejet, de la honte, de la moquerie et de la méchanceté malgré tout. Je m'en suis rendu compte parce que la dernière fois, on était chez le chiro avec Julie. Et moi, je l'attendais dans la salle d'attente avec les gens. Et puis Julie, elle parlait avec la secrétaire. Puis la secrétaire, elle commençait à demander à Julie, ma femme, « Et vous, faites quoi dans la vie ?» Avec un ton de voix où tout l'immeuble avait entendu sa question. Et Julie lui répond avec sa voix douce et tranquille, « Nous, on travaille à l'église Nouvelle Vie. » « Où ça ?» C'est le problème. Julie a une voix magnifique. Elle a une douce voix. Le problème, c'est qu'avec le masque, on ne l'entend pas vraiment. Donc elle est obligée parfois de forcer un peu sa voix, ce qui fait que de temps en temps, sans s'en rendre compte, elle crie. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là. « Nous, on travaille à l'église Nouvelle Vie !» Là, ce n'était pas tout l'immeuble qui avait entendu, c'était tout le quartier. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai eu honte. J'ai l'impression de me cacher, j'étais sur mon téléphone et je me suis caché parce que je sentais le regard des gens me juger, me regarder, me foudroyer du regard. Bon, après, quand j'ai levé la tête, je me suis rendu compte que tout le monde était sur son téléphone. Mais au lieu de bomber le torse, je me suis caché, j'ai eu honte. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà subi de la persécution, j'ai déjà subi de la moquerie. Et puis pour toutes les personnes qui se disent « Hey, il a eu honte, mon pasteur. » Oui, je ne suis pas parfait. Oui, je ne suis pas parfait, merci. Puis si vous avez un problème avec ça, je vous invite à écrire à imparfait@commercialmaisenprogression.com. Ça me fera plaisir de vous lire. Même sans vouloir être un faux prophète ou un prophète de malheur, ce que je ne suis vraiment pas, mais sans vouloir l'être, quand on regarde aux idéologies qui sont en train d'être véhiculées dans la société, quand on entend parler de certaines lois qui sont en train de se préparer par les gouvernements qui vont peut-être interdire certaines façons de parler sur le mariage ou la sexualité, je pense que dans quelques années, on va vivre une persécution qui sera un peu plus prononcée, un peu plus dure, un peu plus violente. C'est que mon avis, et je peux me tromper, je ne suis pas parfait. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que les chrétiens sont et vont être persécutés à un moment ou à un autre. On le voit dans la Bible. C'est Paul qui nous l'a dit dans le texte de tout à l'heure. En 2 Timothée, il nous a dit « D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. » Jésus nous a prévenus. En Jean 18, au verset 15, il nous a dit « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Et au verset 18, il continue « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et peut-être que tu te poses la question ce matin « Ouais, mais moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir été persécuté. » Pourquoi ? J'ai deux réponses à ça. Deux réponses. La première réponse, c'est une question. Es-tu un joueur de l'équipe? J'ai entendu une bonne illustration un jour et je vais essayer de l'appliquer, de la modéliser pour notre contexte. Qui aime le hockey en ce moment? Je ne vous demande pas qui aime regarder les Canadiens jouer en ce moment. Qui aime le hockey? Ok? Qui aime le football américain? Ah, ok. N'aie pas honte. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un grand fan du hockey. Là encore, si vous êtes choqué, imparfait à commercial, mais en progression.com. Hein. Je ne suis pas un grand fan du hockey, je ne connais pas toutes les règles. Mais je sais une chose, lorsque le meilleur joueur de l'équipe entre sur la glace, tous les joueurs adverses se focalisent sur lui pour l'empêcher de jouer. Par contre, si ce joueur, aussi excellent soit-il, est remplaçant, ou il est sur le banc de remplaçant, ou alors même il est en tribune parce qu'il ne joue pas, est-ce que l'équipe adverse va s'intéresser à lui? Non. Est-ce que l'équipe adverse va aller dans les gradins, va aller sur le banc pour aller le frapper, pour l'empêcher de... Non. Non, parce qu'il y a des joueurs, d'autres joueurs qui sont sur la glace. Même s'ils sont moins forts que lui, il y a d'autres joueurs et c'est eux le danger actuellement. Et ils vont se concentrer uniquement sur eux et pas sur lui. Par contre, une fois que ce meilleur joueur rentre sur la glace, alors là, tout le focus est sur lui. Toute la pression vient sur lui. On va essayer de l'écraser, on va essayer de l'empêcher de jouer. Et c'est pareil pour la persécution. Si tu n'es pas sur le terrain... Si tu n'es pas actif, si tu ne dévoiles pas ta foi, si tu restes sur le banc sans te mettre en danger, bah tes adversaires vont te laisser tranquille. Personne ne va venir t'embêter. Personne ne va venir s'occuper de toi parce que tu n'es pas une menace. Mais à partir du moment où tu vas te lever pour Jésus, à partir du moment où tu vas dire « maintenant je proclame ma foi », maintenant, je sers mon église. Maintenant, je veux avoir un impact pour le royaume de Dieu dans ce monde. Tu vas être à nouveau persécuté parce que tu seras dangereux, parce que tu oses agir pour Dieu, parce que tu oses mettre ton appel en action. Et on aurait presque envie de rester sur le banc. On pourrait croire que la persécution rend malheureux, que ce n'est pas bon d'être persécuté. Il y a un mystère dans la persécution. Et ce mystère, on le trouve dans Acte 5. Et en fait, dans Acte 5, on voit les disciples de Jésus qui proclament leur foi en Jésus. Et ils se font arrêter par les religieux. Et les religieux, ils commencent à les interroger. Et à un moment donné, les religieux vont se dire, bah, on ne peut pas les accuser là, on n'a aucun élément pour les accuser. Donc on va les laisser partir. Mais avant de partir, on va leur donner des bons coups de bâton pour les empêcher de recommencer. Donc les disciples vont se faire frapper, ils vont se faire persécuter, ils vont ressortir la bouche en sang avec les... un peu sonnés. Mais est-ce qu'ils étaient tristes d'avoir été persécutés? Regardez ce que nous dit la Bible au verset 41. La Bible nous dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient obéissants à Dieu. Ils ont été persécutés pour le nom de Jésus. Il n'y a pas de plus grande cause. Pas de plus grand nom pour qui ils ont apprécié recevoir les coups. Et cette joie-là, cette assurance-là de faire les bonnes œuvres était plus grande, cette joie-là était plus grande que la douleur des coups reçus. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix chercher à se faire frapper. Hein. Quand on regarde à l'histoire de l'apôtre Paul, même à un moment donné avec Jésus, on voit Jésus et on voit l'apôtre Paul fuir les coups, fuir la persécution violente. Il ne faut pas chercher à tout prix de prendre des coups. Il ne faut pas non plus croire que dès qu'on vit un petit peu d'opposition ou de douleur, on est persécuté forcément. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui disait qu'un jour, un membre de son église est venu le voir et lui a dit « Oh pasteur, priez pour moi. Je me fais persécuter à mon travail, je me suis fait licencier. Priez pour moi s'il vous plaît. » Le pasteur lui a répondu « Frère, tu arrives tous les jours en retard. Tu ne te fais pas persécuter parce que tu es chrétien. Tu t'es fait licencier parce que tu es un mauvais employé. » Ne mettons pas toutes nos douleurs sous le couvercle de la persécution. Mais si tu décides de suivre Jésus, si tu décides de sortir de ton banc de touche, si tu décides de faire des efforts pour lui, de le servir davantage, de donner davantage, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas ressentir de l'opposition contre toi. Et j'ai une bonne nouvelle, si c'est le cas en ce moment, tu es sur le bon chemin. Tu fais les bonnes choses pour le royaume de Dieu. Amen. On avait une question tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas persécuté? La première réponse est, est-ce que tu es dans la game? Est-ce que tu fais partie de l'équipe? Ma deuxième réponse, est-ce que tu réalises que peut-être que tu subis une persécution douce? Et je vais m'expliquer. Je pense que ce principe de persécution douce est difficile à saisir parce qu'on voit vraiment la persécution comme étant violente, comme étant saignante, comme étant quelque chose de... On est obligé de la sentir là. Mais quel est l'objectif de la persécution en soi? L'objectif de la persécution, c'est de nous encourager à pécher, nous encourager à renier notre foi en Jésus, nous encourager à nous cacher, à être silencieux, à être moins bouillant pour Dieu. Et il n'y a pas que la violence qui amène à ça. Je pense qu'au Québec, je pense qu'en Occident, nous, on subit une persécution qui amène les chrétiens de nos églises à se cacher, à faire des concessions, à ne plus être bouillants pour Dieu. Reprenons les mots de Paul qu'on a lus tout à l'heure en 2 Timothée. Il disait d'ailleurs, « Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. » Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le contexte où Paul écrit cette lettre à Timothée, il y avait de la persécution qui était physique. Elle était violente, cette persécution. Pourtant, ici, Paul prévient Timothée d'une persécution qui est plus sournoise, subtile, douce, tranquille, cachée. Et on retrouve ces deux types de persécution même dans l'Apocalypse, où on voit au chapitre 12, c'est une image ici, l'Apocalypse, hein, c'est une vision, c'est des sortes d'images, et on voit une sorte de dragon qui vient persécuter physiquement les gens. Alors qu'à l'inverse, au chapitre 13, on voit toujours encore une sorte d'image, une bête qui vient persécuter, mais là, cette fois-ci, par la déception, la séduction, la tromperie. Autrement dit, l'ennemi de nos âmes a plusieurs stratégies. Il n'est pas obligé d'utiliser la violence pour nous refroidir, pour nous amener à pécher, pour nous amener à renier Jésus. Regardez juste à la sensualité omniprésente dans notre société aujourd'hui. Cette semaine, j'ai été littéralement harcelé par ça. Dès que je regardais Facebook, Instagram ou Netflix, il y avait des images sensuelles qui venaient m'attaquer, attaquer ma pureté, attaquer mes pensées. Mes pensées ont été persécutées cette semaine. Ça m'a permis d'avoir une bonne illustration. Mais j'ai été persécuté sur ça cette semaine. Et vous pensez peut-être que j'exagère en parlant de persécution quand je parle de sensualité. Mais combien d'hommes et de femmes sont aux prises avec la pornographie aujourd'hui? Combien de couples sont brisés à cause de l'infidélité aujourd'hui? Combien de ministères? Combien de ministères ont chuté à cause de l'infidélité? Et je pense que ce genre de persécution, aussi douce soit-elle, ça a plus d'impact sur l'Église mondiale, ou autant d'impact, pardon, sur l'Église mondiale que les persécutions physiques. Mais il n'y a pas que la persécution, il y a autre chose aussi que j'ai observé. Et quand on regarde par exemple à l'histoire de Job, vous savez, Job, il s'est fait persécuter quand même par le diable. Hein. Le diable lui a tout enlevé. On voit dans le livre de Job que le diable a enlevé à Job sa santé, sa sécurité financière, sa famille, ses amis, sa prospérité, sa fierté, son honneur. Il lui a tout enlevé. Et en ayant conscience des différentes stratégies du diable, je me suis juste posé cette question. Et si, au lieu de tout nous enlever pour nous persécuter, si le diable nous donnait tout le confort qu'on voulait pour nous persécuter, pour nous rendre plus passif dans la guerre spirituelle qu'on mène contre lui. Le confort va nous empêcher de parler de Jésus à nos proches. Parce que oui, on veut éviter à tout prix le conflit. Donc moi, je veux rester dans mon confort. Donc non, j'ai pas envie d'en parler. Le confort va entraîner des divisions dans les églises ou même dans les familles parce que c'est plus facile de rester campé sur ses positions que d'accepter ou de dire « Ok, j'ai tort, j'accepte de changer ». On va chercher à garder notre confort dans la sécurité financière, ce qui va faire qu'on va être de moins en moins généreux. On est incité aujourd'hui à rechercher à tout prix le confort. Le problème, c'est que si on vit une autre foi chrétienne dans un confort, on va petit à petit s'éloigner de Jésus. Et on va petit à petit se sentir de plus en plus vide. Et plus on va se sentir vide, et plus on va vouloir combler ce vide par le confort, parce qu'on n'a que ça. Mais ça va encore plus nous vider. Quelques années avant d'arriver au Québec, j'ai eu une période où je me sentais vide. Parce que j'étais dans un confort. Je servais un petit peu à l'église. Un service qui ne me prenait pas trop de temps. Il ne faut pas que ça m'embête, une fois ou deux par mois, gros gros maximum. Mais au moins, check, je faisais mon petit check, je servais. Je faisais mon job là, sans trop de chercher à faire plus. On vivait une bonne sécurité financière avec Julie. On avait tous les deux des bons emplois, mais ça ne me rendait pas plus généreux. Je gardais tout pour moi. Puis avec ça, c'est venu les concessions. Bah, j'ai moins envie d'essayer de me battre. Je préfère rester dans mon confort. J'ai pas envie de me battre contre ma dépendance aux jeux vidéo, contre ma dépendance à la pornographie. Donc non, j'ai pas envie de me battre. Et petit à petit, j'étais en train de devenir tiède à cause de mon confort. Mais lorsqu'on a senti que Dieu nous appelait à venir au Québec, à sortir de cette zone de confort, j'ai retrouvé un dynamisme dans ma vie de prière. J'ai retrouvé une volonté d'être encore plus bouillant, de servir encore plus Dieu, d'être encore plus un acteur pour son royaume. Et devinez quoi ? Vu que la persécution du confort ne marchait plus, j'ai vécu l'autre type de persécution, plus intense, plus violent, plus dur, qui est venu vraiment me frapper. Mais ça ne m'a pas refroidi. Ça ne m'a pas refroidi parce que dans l'épreuve, dans la persécution, dans l'opposition, je courais vers Jésus. Parce qu'il était mon seul appui et le seul capable de m'aider. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans souffrance, sans peine, sans persécution. C.S. Lewis a dit un jour, et c'est un grand auteur C.S. Lewis, c'est lui qui a écrit le livre de Narnia par exemple, il a dit un jour, « Je n'ai pas recouru à la religion pour trouver le bonheur. J'ai toujours su qu'une bonne bouteille de Porto pourrait faire l'affaire. Si vous recherchez une religion qui vous fait gagner en confort, alors je ne vous recommande certainement pas le christianisme. » Et je me suis posé la question, comment tenir alors face à la persécution quand elle vient de nous frapper ? C'est Paul, encore une fois, qui nous donne cette réponse. En 2 Timothée 3, 14, il nous dit, « Quant à toi, Timothée, il rappelle à Timothée, « Quant à toi, demeure ferme. » Une autre traduction dit, « Reste attaché, garde solidement, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » Reste accroché à Jésus, Timothée. Reste accroché à Jésus dans la persécution. Parce que même quand tu souffres, quand tu restes attaché à Jésus, il est celui qui va te donner la force de surmonter ces épreuves. Reste solidement attaché à lui, comme un parachutiste est solidement attaché à son parachute quand il saute dans le vide, quand il quitte sa zone de confort de l'avion. Reste attaché solidement à Dieu parce qu'il est ton parachute dans cette vie. Il est celui qui peut t'épauler. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Est-ce que je peux entendre un amen à ça ? En fait, même, j'aime l'idée, c'est assez fou de se dire ça d'ailleurs, mais la persécution, en fait, nous rapproche de Jésus. La souffrance peut te rapprocher de Jésus. Pourquoi ? Parce que tu vas réaliser que quand tu souffres, quand tu es persécuté, tu ne pourras jamais subir ça et vivre ça seul. Paul l'a dit en 2 Corinthiens 12 au verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si tu décides de sortir de ta zone de confort et de parler de ta foi autour de toi, de te battre contre la pornographie, de te battre contre tes dépendances, de te battre pour sauver ton mariage, si tu décides d'être plus généreux ou de servir encore plus, tu vas réaliser une chose, c'est que tu es trop faible pour y arriver seul. Mais en te reposant sur Dieu, il va être ta force pour témoigner de ta foi. Il va être ta force dans ta tentation. Il va être ton amour pour ton conjoint ou ta conjointe. Il va être ta compassion dans ta générosité. Il va être ta joie dans ton service. Même si tout ça risque de te faire endurer la souffrance, Jésus sait exactement comment t'aider à y faire face parce que Jésus a subi toute peine et toute douleur. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, est venu sur terre et a vécu la persécution. Il a vécu le rejet. Il a vécu la souffrance. Il a quitté sa zone de confort parce qu'il t'a aimé avant même que tu ne viennes au monde et avant même que tu ne viennes ce matin ici. Il a connu tout ça pour pouvoir nous aider dans la souffrance. Il a connu tout ça pour pouvoir nous épauler dans la persécution, pour être cette épaule sur laquelle on peut pleurer, pour être cet ami qui nous dit d'une voix douce, « Je sais, je te comprends, mais je suis là. » Jésus a enduré la persécution car il savait que le meilleur était à venir. Il savait que par sa persécution, que par sa mort, tout ce qu'il était en train d'accomplir en portant le péché à la croix, tout ça allait entraîner la défaite de nos péchés. Tout ça allait entraîner la défaite de la mort. Tout ça allait entraîner sa résurrection et sa gloire éternelle. Et c'est avec cette même notion d'un meilleur avenir que Paul a vécu ses persécutions. Paul continue dans sa lettre de Timothée, il dit au chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. » Sa foi en quoi ? Verset 8, il nous dit « Et maintenant le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. » Paul s'est reposé sur sa foi en Jésus et sur la récompense à venir pour tenir ferme dans l'épreuve. Il savait qu'un jour, toutes ses douleurs cesseront et qu'un jour, il rentrerait dans la gloire de son maître et il entendrait de la part de Jésus, « Bien fait, bon et fidèle serviteur, rentre maintenant dans le repos, loin de la persécution, loin de la souffrance, loin des pleurs, rentre dans le repos. » Et Paul nous prévient, Paul prévient Timothée, Paul nous prévient que les temps de la fin seront difficiles car il ne veut pas qu'on manque ce prix. Il ne veut pas qu'on manque cette récompense. Mais la façon dont je lis la Bible, la façon dont ma théologie est pour le moment, pour moi, je crois que nous sommes dans les temps de la fin depuis que Jésus a quitté la terre, depuis qu'il a été élevé au ciel. C'est ma théologie, c'est ma façon de voir les choses. Et peu importe comment tu vois la fin des temps, je crois que cette période de persécution n'est pas près de s'arranger, mais qu'elle va continuer à grandir. Et on a le choix ce matin, on a tous le choix ce matin, dès maintenant, de sortir de notre zone de confort, de renforcer nos fondations, d'entrer dans la game, ou alors de rester dans les tribunes, tranquillement, et rester tiède. Dans l'Apocalypse, Jésus demande à Jean d'écrire une lettre à l'église qu'on appelle l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, elle vient de la ville Laodicée. 3 ans de théologie pour arriver jusque-là. Et Laodicée, il faut savoir, c'était une ville qui était extrêmement riche. Elle était riche, elle abondait en richesses. Les historiens nous disent qu'un jour, elle a vécu un tremblement de terre. Cette ville a vécu un tremblement de terre, tout s'est écroulé. Et elle était tellement riche qu'elle a dit à Rome, « Non, non, pas besoin de ton argent, on a assez d'argent pour se reconstruire nous-mêmes. » Elle était riche, cette ville. Mais il lui manquait une chose. Il y avait un défaut, c'est qu'elle n'avait pas une bonne eau. Elle n'avait pas une bonne arrivée d'eau. Elle avait une eau qui était tiède, qui était un peu moisie. Et à l'époque, soit on a une eau chaude dans laquelle on peut prendre un bain, soit on a une eau fraîche et on peut boire à cette source, on peut boire cette eau. Mais une eau tiède, ça ne sert à rien. Et voici ce que Jésus va dire à cette église. Et on le trouve, si vous voulez lire, dans Apocalypse 3. Jésus dit à l'église de Laodicée, « Vous êtes comme cette eau tiède. » Vous n'êtes ni frais, ni bouillant. En fait, vous n'êtes pas utile. Et Jésus est fort dans ce moment-là parce qu'il dit, « Je vais vous vomir de ma bouche à cause de votre tiédeur. » Et en même temps, on comprend, nous, si on boit une eau tiède, un peu moisie, on va vomir. C'est un peu écœurant. Mais Jésus continue. Il leur dit qu'ils sont tièdes à cause de leur confort, à cause de leur richesse, à cause de tout ce qu'ils ont. Et les challenge. Sors de ta zone de confort. Jésus les appelle à avoir du zèle, à refuser d'être à l'abri, à oser se mettre en danger, à oser peut-être même accepter la persécution. Et ce message-là, ce n'est pas uniquement pour l'église de Laodicée. C'est aussi pour nous ce matin. Dieu nous appelle à oser sortir de notre zone de confort, à se préparer dès maintenant, à préparer notre foi dès maintenant pour les jours les plus difficiles. Ce matin, je vais te demander d'oser une chose. Ose poser la question à Dieu : que veux-tu que j'abandonne pour toi ? Ose rentrer dans la game ce matin.